Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. La colère couve au Proche-Orient. Reportage en Cisjordanie dès le début de ce journal, alors que la reconnaissance de Jérusalem par Donald Trump attise toujours les tensions. Sur ce même dossier israélo-palestinien, nous évoquerons également la visite à l'Élysée ce midi de Benjamin Netanyahou reçue par Emmanuel Macron. Élection territoriale en Corse, les nationalistes espèrent bien transformer en élus leur large avance du premier tour. Nous entendrons également le président de l'UDI, le centriste Jean-Christophe Lagarde. Plus question, nous dira-t-il, de s'allier avec les Républicains s'ils sont présidés dès ce soir par Laurent Wauquiez. Et puis nous reviendrons sur la communion des fans hier lors de l'hommage populaire à Johnny Hallyday. Au moment de garder une trace de leur idole, beaucoup se font graver son portrait dans la peau. Reportage dans un salon de tatouage en fin de journal. La colère qui reste pour le moment contenue au Proche-Orient. L'armée israélienne a tué hier 2 Palestiniens dans des bombardements sur Gaza, réplique à des tirs de roquettes du Hamas. Le feu qui couve donc toujours 4 jours après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Nos envoyés spéciaux Jérémy Thuil et Claude Guibal étaient hier à Naplouse, en Cisjordanie, où l'on observe, où tout le monde s'observe en attendant de voir si la mobilisation arabe va finalement prendre de l'ampleur.
Debout à l'arrière de son camion, il fait signe à ses assistants. Il faut ramasser les cajots de légumes, les aubergines, les oignons. Abou Ziyad a compris qu'il ne vendrait rien s'il restait ici, coincé sur ce checkpoint à l'entrée de Naplouse, entre les tirs de l'armée israélienne et les jets de pierre des manifestants. Et Abou Ziyad en a marre et il ne sait plus quoi faire.
Regardez, ils sont là-haut, là, sur la colline. Ils ne veulent pas de nous ici, ils veulent nous prendre notre terre, et c'est ça depuis 1948. Oui, j'ai peur de tout ce qui se passe en ce moment. Je me sens abandonné. On a peur, oui, on a peur pour de bon.
Abou Ziyad, c'est qu'à Gaza, à 2 heures de route de là, il y a eu 2 morts et des bombardements. Il a entendu le message du Hamas renvoyant sur Israël la responsabilité de la suite des événements, de l'escalade peut-être. Ici en Cisjordanie, c'est vers Gaza qu'on regarde pour savoir si le mouvement prendra. Abou Ziyad, lui, affilé au volant de son camion, laissant sur le goudron quelques fans de légumes flétris au milieu des cailloux et des cendres.
La suite des événements dépend d'Israël, nous disait à l'instant Claude Guibal, et c'est peut-être bien à Paris que cette suite va se jouer, en partie aujourd'hui. Emmanuel Macron reçoit pour un déjeuner de travail le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, critiqué, on le sait, pour son soutien aux colons juifs en Cisjordanie qui grèvent les efforts du processus de paix. Mais Netanyahou arrive aussi à Paris renforcé dans son pays par la décision de Donald Trump, dont il est proche. C'est l'analyse depuis Jérusalem d'Étienne Monin.
En période de trouble, le trottoir de la résidence du Premier ministre à Jérusalem est le lieu des manifestations. Aujourd'hui, personne n'a monté de tente et on entend des compliments dans la bouche de Tamar, habitante de Jérusalem.
On l'apprécie encore plus, pour sa diplomatie et pour l'homme.
Dans la rue, les personnes interrogées saluent la victoire diplomatique du Premier ministre, même si pour beaucoup, c'est perçu comme une reconnaissance naturelle, malgré les critiques internationales, explique Tineret.
Bien sûr qu'on le soutient. On pense que Jérusalem est notre capitale, et peu importe ce que peuvent dire les capitales européennes ou arabes, je ne sais pas, ça ne compte pas. On sait où est notre pays et où est notre capitale.
Mais le Premier ministre n'échappe pas à la situation intérieure. Il est visé par plusieurs enquêtes judiciaires qui polluent son action politique, estime Schlomo.
Ça fait vraiment trop. On ne peut pas enchaîner les enquêtes comme ça, même sur sa femme, sans qu'il ne se passe rien. Il faut le remplacer.
Benjamin Netanyahou est une personnalité controversée en Israël, mais il reste le seul leader incontesté.
Notez tout de même qu'à Paris, hier, environ 400 personnes manifestaient contre la venue justement de Benjamin Netanyahou et la reconnaissance de Jérusalem par Donald Trump, et ce à l'appel de France-Palestine-Solidarité. Ils étaient également 300 à Lyon. Journée de fête nationale aujourd'hui en Irak. Le jour férié a été annoncé hier par le Premier ministre Haider al-Abadi quand il a proclamé la victoire finale de son pays sur les combattants de Daesh. Le groupe État islamique en 2014 avait conquis jusqu'à 40% du territoire irakien. Il a été chassé ces derniers jours de la dernière bande désertique qu'il contrôlait à la frontière avec la Syrie. 9h04 sur France Culture, retour aux urnes ce dimanche pour les électeurs corse, second tour des élections territoriales. On s'en souvient, dimanche dernier, les nationalistes menés par Gilles Simoni ont failli rafler la mise dès le premier tour, récoltant plus de 45% des suffrages. Ils ont face à eux trois autres listes, deux de droite qui n'ont pas fusionné et celle de La République En Marche. Rappel des enjeux de ce second tour corse avec Cyril Graziani.
Les Corses bouderont-ils encore les urnes comme la semaine passée? Seul un peu plus d'un sur deux avait participé en effet au premier tour, signe d'un désintérêt pour ce scrutin pourtant essentiel. La Corse vote pour élire la collectivité unique, qui verra le jour le 1er janvier prochain. Fusion des deux départements et de l'actuelle collectivité, elle sera dotée d'un budget considérable, 1 milliard d'euros. Toute la semaine, les adversaires des nationalistes ont appelé à un sursaut des électeurs. Jean-Martin Mondoloni pour la droite régionaliste, Valérie Bozzi pour le parti Les Républicains qui n'ont pas réussi à fusionner et Jean-Charles Orsucci de La République En Marche. Tous trois ne se font guère d'illusions, mais ils espèrent comme un ultime baroud d'honneur contrecarrer les plans de Gilles Simeone, qui veut terminer avec le plus haut score possible. Le président actuel de la collectivité a mobilisé son camp tout au long de la semaine. Il souhaite accroître son avance, car plus elle sera forte, plus le message adressé à Emmanuel Macron aura des chances d'être entendu.
Cyril Graziani, encore, c'est l'autre scrutin du jour. Il ne devrait pas non plus amener beaucoup de suspense. Élection interne, cette fois, au parti Les Républicains, qui élit son nouveau président. Ce n'est aujourd'hui que le premier tour, mais le favori Laurent Wauquiez rêve d'un plébiscite des militants qui imposerait dès ce soir sa ligne très droitière chez Les Républicains face à Maëlle de Calan et Florence Portelli. Une ligne de Laurent Wauquiez qui pourrait bien redéfinir le paysage politique à droite d'ores et déjà. Les centristes de l'UDI, allié traditionnel des Républicains, préviennent qu'ils refuseront toute collaboration si Laurent Wauquiez est élu. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, l'a dit à Yannick Falt.
La première fracture, elle s'est située entre les deux tours de l'élection présidentielle, lorsque Laurent Wauquiez et ses amis ont refusé d'appeler à faire battre Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. En faisant sauter ce que Jacques Chirac appelait la digue républicaine. La deuxième chose, c'est que les discours qu'on voit se développer, anti-européens, un discours identitaire jusqu'à l'obsession, caricatural, et qui se radicalise vers la droite toujours plus, bien, en faisant ça, tout simplement, évidemment, Laurent Wauquiez, et en tout cas ses proches, non seulement font fuir une partie de leurs propres amis, dans leur propre parti, mais rendent impossible tout accord politique. Pour pouvoir se présenter, pour constituer une alliance, pour se présenter ensemble devant les électeurs, il faut quand même être d'accord sur l'essentiel. Et je constate simplement que ce n'est plus le cas et que ce n'est plus possible avec cette dérive identitaire, anti-européenne, démagogique et qui ne sait même plus faire front commun des démocrates pour lutter contre le Front National.
Jean-Christophe Lagarde et le vote pour la présidence des Républicains, premier tour, se poursuit par voie électronique jusqu'à 20h ce soir. Puisqu'on parle de la droite, des nouvelles de François Fillon et de sa reconversion dans le privé, ça avance vite. François Fillon qui vient d'être nommé à la Fédération Automobile Internationale, président de la commission constructeur. Il devra entre autres négocier les nouveaux accords qui organiseront le championnat de Formule 1 à partir de 2021. Retour à présent sur cette ferveur entre deuil et rock'n'roll, ferveur qui a envahi hier le centre de Paris. L'hommage populaire à Johnny Hallyday a réuni des dizaines de milliers de fans et de badauds autour des Champs-Élysées et de l'église de la Madeleine. La dépouille du chanteur s'envole à présent pour l'île caribéenne de Saint-Barthélemy, où elle sera inhumée demain dans la plus stricte intimité familiale. Les fans, eux, sont rentrés chez eux avec chacun leur souvenir de Johnny, souvenir parfois gravé dans la peau. Depuis mercredi, les salons de tatouage ne chôment pas, comme l'a constaté Manon Derdevet.
Johnny était déjà une star dans les salons de tatouage, mais depuis sa mort, les demandes explosent. Alors les tatoueurs, comme Vicky, doivent répondre aux attentes des fans.
Par Facebook, en message et tout, on a eu beaucoup de clients qui demandaient d'avoir soit le portrait de Johnny, soit la croix en pendentif de Johnny, la signature et tout. Donc c'est pour ça qu'à la dernière minute, on a fait quelques petits flashs tatou pour Johnny Hallyday.
Et Vicky est restée sur les classiques.
Deux portraits, une caricature, un petit portrait tout simple. Après, sa date de naissance, sa date de décès, la signature, que je t'aime, et voilà.
Par cœur, un autre tatoueur fan absolu de Johnny a lui fait des tatouages spécialement en hommage au chanteur.
Une veste en cuir avec des clous gravés Johnny Forever dans le dos. Deux mains en forme de cœur avec les poignets enchaînés, avec écrit « Mourir d'amour enchaîné ».
Mais il y en a d'autres, un peu moins sérieux.
Un cercueil avec écrit « Allumer le feu » avec un cœur brisé. Et la boîte à coucou des guignols de l'info.
Il y en a pour tous les goûts, mais pour avoir Johnny gravé dans la peau, il faut tout de même mettre la main à la poche. Pour un tatouage, comptez entre 100 et 400 euros.
Avis aux amateurs, Manon Derdevet pour France Culture. La météo enfin, avec cette alerte lancée par Météo France sur des bourrasques de vent particulièrement forts qui vont souffler aujourd'hui et demain, à l'exception tout de même du sud-est de la France. Vigilance orange également décrétée sur 12 départements pour des risques donc de vent violent, en particulier sur la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais. Dès à présent, neige et verglas sur l'Aisne, le Cantal, la Lozère, la Haute-Loire, Alpes d'Haute-Provence et Hautes-Alpes. Alerte avalanche, enfin, sur la Savoie, où l'on attend, comme sur tous les reliefs français aujourd'hui, des chutes de neige abondantes.